Et nous voilà arrivés à notre dernier entretien. Dernier entretien que je voudrais consacrer à la question si embarrassante des distractions dans notre réseau. Ah, nous sommes tous des grands distraits dans le réseau, et d'autant plus distraits que le réseau est plus contemplative. Alors, essayons de comprendre ce que sont ces fameuses distractions pour ne pas nous en inquiéter. En effet, les distractions, je dirais, sont aussi désagréables que bénignes dans une vie spirituelle. À quoi sont-elles dues? Eh bien, à ce silence intérieur que Dieu provoque dans l'oraison de quiétude, dans l'oraison de silence. Et dans une pièce en grand silence, la moindre mouche se met à faire un vacarme invraisemblable. Et c'est comme ça que les distractions se multiplient à proportion de notre impuissance à méditer, bref, à occuper notre esprit. Alors quel est le remède? Eh bien certainement pas attraper les mouches, mais les laisser voler tranquillement. Autrement dit, n'y prêter aucune attention. Alors ici, je vais interroger un grand maître du XXe siècle. Je veux parler de John Chapman, abbé bénédictin anglais au début du XXe siècle, plein de bon sens à travers ses lettres spirituelles, et il nous apprend à ne jamais dramatiser la vie spirituelle en général, mais dans cette question des distractions, il est franchement plein d'humour. En ce qui concerne les distractions, dit-il, vous devez simplement les accepter comme la volonté de Dieu, sauf si elles sont volontaires. Mais nous devons nous y résigner et même les accepter dès demain, comme n'importe quelle autre souffrance. En effet, nous devons souhaiter avoir la prière que Dieu nous donne et pas une autre. Que ce soit une prière distraite, une prière de désolation ou une prière heureuse, ça arrive aussi, nous devons tout prendre comme cela vient. Car notre union à Dieu consiste à faire et à accepter sa volonté, moment après moment, tout au long de la journée. Rien d'autre n'importe. Bon. Alors, Chapman nous a d'abord prévenu, accepter les distractions, sauf si elles sont volontaires. Ah, ben c'est toute la différence entre être distrait, ça ne dépend pas de nous, et puis se distraire. Alors bien sûr, si nous cherchons à nous distraire pendant l'oraison, si nous faisons autre chose, si nous réfléchissons à nos vacances parce que là, on n'est pas dérangé, ben nous ne faisons plus ce pourquoi nous sommes venus en oraison. Nous ne faisons plus ce que Dieu attend de nous. Mais je dirais, tant que nous regrettons les distractions, tant que nous pouvons dire de bonne foi, « Seigneur, oh, comme je préférerais ne pas être distrait », alors n'en doutons pas, notre oraison est intacte. Faisons un pas de plus. Le but de l'oraison n'est pas de réussir l'oraison. Don Chapman nous dit, « Prenez la prière que Dieu vous donne au moment où il vous la donne. Vous êtes là pour lui, vous n'êtes pas là pour vous. » Bon, alors si vous êtes distrait et que vous n'avez aucune envie de l'être, raison de plus pour vous réjouir. C'est sa volonté et non pas la vôtre qui est en train de se faire. Alors jetez-vous dans ses bras. Et Chapman nous dit joliment, « Ne regardez pas tant dans votre âme, mais regardez Dieu. » Vous savez, l'oraison, c'est comme faire de la bicyclette. Quand on a peur de tomber, alors là, c'est la meilleure façon de tomber. Si on regarde ses pieds au lieu de regarder la route, on tombe par terre. L'oraison tend à la simplicité et, je dirais, à une certaine aisance. Alors, ne cherchons pas à être parfaits au sens à réussir notre oraison. Et je vais demander à un prédécesseur de Don Chapman, certain Saint-Jure, Jean-Baptiste Saint-Jure, encore un des maîtres du XVIIe siècle français, de nous rassurer sur ce point. Dieu ne nous veut point de mal lorsqu'il nous voit extravaguer dans nos oraisons et penser à autre chose, tant que cela arrive contre notre gré. Dieu est plutôt touché de commisération. Dès lors, souffrez les équipés de votre imagination, éloignez-les de votre entendement avec patience, mais résignez-vous à la volonté de Dieu, pour vous soumettre à cette épreuve autant de temps qu'il voudra. Après tout, c'est quelque chose de la croix de Jésus que ces distractions. Alors pourquoi ne pas les vivre comme un moment d'union, plutôt que comme un moment de désunion et de volonté propre? Voilà. Alors cela, voyez-vous, me conduit à notre conclusion générale. C'est Thérèse d'Avila qui va nous la donner. Le progrès de l'âme, dit-elle, n'est pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Oui, ne luttons pas contre les distractions, cherchons à aimer Jésus. Ne luttons pas contre les distractions, ce serait vouloir attraper 10 mouches. Et au fond, les distractions, c'est tout ce qui nous appesantit dans la vie spirituelle. L'oraison n'est pas pour vaincre tout cela, mais pour offrir tout cela. Et alors, l'important est la persévérance. S'il faut revenir 1000 fois à l'oraison, parce que la distraction, parce que la lassitude, parce que peut-être même parfois la mauvaise volonté nous en ont éloignés, eh bien, ce sont 1000 occasions de montrer au bon Dieu que nous l'aimons et réjouissons-nous. Et voyez-vous, dans une vie d'oraison, ne nous culpabilisons jamais. Nous sommes là par amour, non par devoir. Et plus notre oraison sera libre, autant, je dirais plutôt libérée par le Seigneur, plus elle sera ce dialogue amoureux par lequel nous avons commencé notre premier entretien. Alors pour conclure, je vais maintenant lire tout simplement un magnifique texte d'un autre maître du XVIIe siècle français, Saint Jean Eudes, qui va nous dire à quel point l'oraison est centrale et peut-être même la seule chose centrale dans une vie chrétienne. Je lui laisse la parole et je suis sûr, chers amis, que avec Saint Jean Eudes, vous n'aurez désormais plus qu'une envie, c'est de vivre cette intimité avec le Seigneur qui s'appelle l'oraison. J'emprunte ce passage dans « La vie et le royaume de Jésus ». Le saint exercice de l'oraison, nous dit Saint Jean Eudes, doit être mis au rang des principaux fondements de la vie et de la sainteté chrétienne, parce que toute la vie de Jésus-Christ n'a été qu'une perpétuelle oraison. Laquelle vie de Jésus-Christ nous devons continuer et exprimer en notre vie. Et comme une chose si importante et si absolument nécessaire que la terre qui nous porte, l'air que nous respirons, le pain qui nous sustente, le cœur qui bat dans notre poitrine ne sont point si nécessaires à l'homme pour vivre humainement que l'oraison est nécessaire aux chrétiens pour vivre chrétiennement. L'oraison est une participation à la vie des anges et des saints, à la vie de Jésus-Christ et de sa très sainte mère, et à la vie de Dieu même et des trois personnes divines. Car la vie des anges, des saints, de Jésus-Christ et de sa très sainte mère n'est autre chose qu'un continuel exercice d'oraison et de contemplation, étant sans cesse occupé à contempler, glorifier et aimer Dieu, à lui demander pour nous les choses qui nous sont nécessaires. L'oraison, c'est la parfaite félicité, le souverain bonheur, le vrai paradis de la terre. Car c'est par ce divin exercice que l'âme chrétienne est unie à son Dieu qui est son centre, sa fin et son souverain bien. C'est là qu'elle le possède et qu'elle est possédée par lui. C'est là que Dieu prend ses délices en nous. C'est là qu'il prend ses délices avec les enfants des hommes et qu'il nous fait connaître par expérience que les vrais délices et les parfaits contentements sont en Dieu, et que 100, voire 1000 ans des faux plaisirs du monde ne valent pas un moment des véritables douceurs que Dieu fait goûter aux âmes qui mettent tout leur contentement à converser avec lui par le moyen de la sainte oraison. Et saint Jean-Eudes conclut, et je conclus avec lui, « Regardez cette affaire comme la première, la principale, la plus nécessaire, la plus pressée et la plus importante de toutes vos affaires, et dégagez, tant qu'il vous sera possible, des autres affaires moins nécessaires. »